Europe 1, 13h, 14h, il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Isabelle Morizet.
Bonjour. Elle fut la femme chocolat, la môme Ruiz, cérébrale et ardente, entre gitane et lutin, au croisement du réalisme et du merveilleux. Volontairement affranchie de la Starac avant même la fin de l'aventure, car elle savait que son destin l'attendait ailleurs, autrement. Alors oui, bien sûr, elle chante, elle danse, elle joue, mais aussi, et j'allais dire surtout, elle écrit Olivia Ruiz, avec poésie et vigueur. Son premier roman, La commode au tiroir de couleurs, a conquis 500 000 de lecteurs et les critiques les plus blasées. Son nouveau roman, Écoute la pluie tomber, qui paraît chez Lattès, est riche des mêmes promesses. Bonjour Olivia Ruiz.
Bonjour.
Bon, Olivia Ruiz, non mais franchement, comment se fait-il que Pedro Almodovar n'ait pas encore fait appel à vous alors que vous possédez le même ADN que ses héroïnes ?
Oh, mais je l'aime tellement, si vous saviez, Isabelle. J'ai fait des appels du pied à chaque fois que j'étais en Espagne, en promotion ou quoi que ce soit. Je disais, oh, je rêverais de tourner avec lui, ou je faisais des vannes en disant que Pénélope est maintenant, il fallait qu'elle passe le flambeau. Mais non, pas de réponse à mes nombreux appels du pied. Oui, oui, il ne faut jamais dire jamais.
Mais la Commode au tiroir de couleurs va paraître en Espagne. Et oui, le livre va arriver dans ses mains.
J'aimerais beaucoup, je pense que je prendrai la peine même de lui faire une jolie dédicace. C'est peut-être mon plus grand inspirateur, finalement.
Olivia Ruiz, vous confiez, j'ai un tempérament entier, mais j'aime partager. Je suis passionnée, amoureuse, volontaire, combative. Je ne sais pas si ça, c'est l'Espagne, ou bien si c'est juste être une femme. Et si c'était les deux ?
C'est peut-être les deux, tout à fait. C'est peut-être même être une Française aussi.
Et pourquoi pas ?
Et pourquoi pas ? Après tout, oui, la vie est un combat. Donc, effectivement, moi, j'ai décidé de la bouffer, cette vie, de ne pas la laisser passer. C'est mon angoisse numéro un, le temps.
Vraiment ?
Oui, parce que la vie ne sera pas assez longue pour faire tout ce que j'ai envie de faire, c'est sûr.
Jeune déjà, vous vous inquiétez du siphon du temps ?
Jeune, je ne sais pas. Mais en me disant, bon, ok, j'ai fait beaucoup de choses depuis 20 ans, mais je m'étais dit que je ferais aussi ça. Et puis que je ferais aussi ça et ça. Et ça, je n'ai pas eu le temps. Et pourtant, j'ai été quand même dans le travail plutôt H24 pendant 20 ans.
Ah, c'est certain.
Donc c'est ça, c'est peut-être là de réaliser que le temps passe vite. C'est peut-être ces 10 dernières années que j'ai commencé à avoir ce genre d'inquiétude.
Je parlais de l'Espagne à l'instant, mais chez vos parents, il paraît qu'on ne parlait pas espagnol. Et votre nom de famille, Olivia, n'est pas Ruiz, mais Blanc. Alors comment se fait-il que ce tempérament ibérique qui vous enflamme depuis l'adolescence et qui, en quelque sorte, est un étendard, ne se soit pas dilué depuis l'exil de vos arrière-grands-parents qui ont fui Franco? On a le sentiment que la flamme est toujours aussi vive.
Peut-être que justement, on a étouffé la flamme et qu'en ce qui concerne mon cas, celui de mon frère, celui de certains de mes cousins, le temps a fait qu'il l'a ravivée. 3 de mes grands-parents ont immigré pendant la guerre,
oui,
ou avant, on ne sait pas très bien les dates. Et effectivement, le seul grand-parent qui est français pur souche est celui qui me donne son nom, qui est le nom de Blanc.
C'est étonnant.
Mais dans ce café que tenaient mes parents quand j'étais enfant, mes deux grands-parents maternels m'élevaient, peut-être plus que les miens, qui travaillaient énormément. Donc, cette Espagne en eux qui cachait avec toute leur énergie, je pense, transpirait suffisamment pour qu'elle devienne constitutive aussi de ma personnalité. Ou peut-être que c'était là. On ne sait jamais finalement ce qui nous appartient quand on essaye de faire le bilan de ce qui en nous est quelque chose qui a été donné ou qui était déjà là depuis toujours.
Mais alors cette sensibilité, cette curiosité et puis ce manque justement de l'Espagne et de vos racines ont fait de vous un écrivain dont le premier roman s'est écoulé à 500 000 d'exemplaires et le nouveau, Écoute la pluie tomber, a vraiment la même force. Rien n'est tiède dans votre écriture, Olivia Ruiz. C'est à la fois poétique et violent. Et votre œil est une caméra de génie. Comme par exemple, lorsque vous décrivez, après un baston, votre corps qui gît sur le carrelage des douches d'une prison. Ça, c'est dans, justement, c'est l'un des chapitres de « Écoute la pluie tomber ». Vous écrivez « Je dois ressembler à une orchidée vue du dessus ». allongée au cœur de cette grande tache carmin sur le sol blanc des sanitaires. L'eau qui s'étire en fait évoluer les contours comme une fleur en proie au vent. Tout est ciselé. Il vous vient d'où ce goût des mots ?
C'est les images, ce sont les images qui me dictent les mots. C'est en ça que je vous disais que vraiment Almodovar a participé énormément à m'inspirer et à me faire prendre conscience aussi de la beauté des femmes que j'avais autour de moi pour en extraire la sève, puisqu'elles étaient toutes et sont toutes très secrètes, et en faire des histoires. Voilà. Donc je pense qu'il y a... Il y a ça dans la citation que vous faites. Il y a une image avant tout que je me contente finalement de décrire avec des mots simples. Mais c'est ça qui m'apparaît en premier. Comme un cinéaste peut-être, j'ai l'image de cette bagarre, de ces sanitaires dans cette prison de femmes. Je peux sentir à peu près la tension qui s'en dégage. En même temps que l'aspect sensuel aussi... qui peut interroger dans ces moments-là. Et tout à coup, l'image surgit. Et moi, je me contente de la regarder.
Et elle frappe le lecteur.
Et de la décrire.
Alors, il est temps, Olivia Ruiz, de planter le décor de cette histoire qui démarre en 77, dans un petit village d'Occitanie, Marseillette, où Rita, la sœur de Carmen, votre héroïne, tient un café qui est le théâtre de toutes les joies et les névroses des cabossés de la vie qui ont posé là leurs valises. Ce café... c'est un rempart, mais aussi une prison magnifique pour tous les exilés. Les vrais qui ont fui Franco, comme ceux que le destin a oubliés. Ce café, il est vraiment inspiré de celui de votre enfance.
Ah oui, vraiment, je me replongeais dans les images que j'en ai encore, parce qu'il existe, hein, ce café. Il est aujourd'hui tenu par deux jeunes Anglais qui, pour celui qui est au bar, s'amuse beaucoup de toutes ces histoires avec la commode et écoute la pluie tomber. Il me racontait il y a à peine quelques jours que des gens viennent et comme ils veulent tellement un souvenir, ils achètent un verre au hasard.
Donc ça va faire comme pour Amélie Poulain.
Oh, oui, ce serait bien pour le village de Marseillette qui bénéficie de peu de tourisme à l'exception du canal du Midi. Je serais ravie de leur apporter un petit peu de monde, mais j'en suis moins certaine que vous.
Mais si on imagine que ce livre est autobiographique, on a tort. Et pourtant, à chaque page, ben, on croit débusquer un souvenir ou un morceau d'ADN de votre propre histoire. Mais les personnages si incandescents de ce nouveau roman, donc, Écoute la pluie tomber, c'est quand même une famille fantasmée que vous vous êtes inventée. Et Dieu sait si la vôtre ne manque pas de relief.
Non, et en même temps, elle est très différente de celle de mes livres.
C'est par pudeur que vous avez redessiné tous ces profils ?
C'est surtout que...
Plutôt que d'écrire les vrais.
Alors non, c'est par manque d'éléments, en fait, Isabelle, avant tout, parce que mes questions sont restées sans réponse sur toute cette histoire. Et je crois que le secret et le ciment aussi de cette famille, en tout cas, je le présuppose. Donc la pudeur coule et bouche, effectivement, et le secret et la douleur... les empêche justement de se libérer de tous ces fils. Donc finalement, c'était génial pour moi de me donner la possibilité d'inventer des femmes que j'aurais aimé connaître. Les miennes peuvent ressembler par certains aspects à celles-ci, sauf que celles-ci sont bavardes. Sauf que celles-ci ont la conscience de la nécessité de la transmission.
Que les femmes de votre famille sont des taiseuses.
Eh bien, oui. Alors, on parle, hein. On parle de choses inutiles en permanence. Non, moi, alors vraiment, je suis l'inverse pour ça. Je mets les pieds dans le plat tout le temps, je questionne. Je leur casse les pieds sans cesse parce que moi, j'aime savoir.
Brasser les souvenirs, tout analyser, remonter le fil.
L'été dernier, j'ai mis mes tantes très mal à l'aise. Parce que tout à coup, justement, j'étais en train de penser à une histoire. Je dis, vous avez déjà trompé vos maris avec qui elles sont.
Oui.
Et ça me semblait une évidence qu'elle pouvait me dire ça, moi. Elle me disait, voilà, les femmes, on se trahira jamais.
Elles ont été choquées.
Elles peuvent... Un peu. Il y a eu un peu, j'ai senti une petite réaction de,
Mais Olivia.
Mais non.
Jamais.
Et moi, je dis, attends, nous quand même, entre filles, on peut bien se dire les choses. Vos expériences peuvent m'aider. Donc voilà, elle se marre et elle me charrie. Parce que je les épuise avec mes questions.
Alors, ce nouveau livre, c'est un tourbillon. Il est question, justement, dans Écoute la pluie tomber. Il est question de transmission, d'amour, de sexe. torride, de tauromachie, de trahison, de prison, de dictature, de drogue, de secret de famille, d'un paquebot transatlantique et de révélation à soi-même. Tout ça sur presque 3 décennies. Écrire au long cours, ça n'a rien à voir avec écrire une chanson. Quand avez-vous su que vous étiez faite pour l'écriture au long cours ?
Je me suis même pas encore dit ça. Hein. Ça reste...
Alors que le premier roman s'est vendu à 500 000 d'exemplaires.
Vous savez, nous, les petits-enfants et enfants d'immigrés, on porte comme legs un sentiment d'illégitimité, un syndrome de l'imposteur dont parlent beaucoup d'artistes d'ailleurs, aussi issus de l'immigration ou pas. Donc je pense que c'est ça qui fait que je ne me regarde pas encore en tant qu'auteur.
Bon, vous êtes une artiste totale, ça on le sait, mais vous savez bien que les médias et parfois le public aiment dessiner des cases. Une chanteuse populaire dont les romans sont salués par les critiques les plus exigeants, comme par exemple les journalistes du Monde des Livres, de l'Obs, de Télérama, du Figaro Littéraire, et j'en passe, c'est extrêmement rare. Est-ce que vous avez craint, Olivia Ruiz, quand vous avez commencé à écrire, est-ce que vous avez craint les a priori d'usage envers la jeune femme née médiatiquement sur le plateau de la Starac?
Oui, bien sûr. Et même de la chanteuse, indépendamment de la Starac. On sait qu'il y a un problème avec ça et qui est plutôt européen. On voit beaucoup aux États-Unis, par exemple, des écoles pluridisciplinaires. Et moi, ça me semble quelque chose d'un peu évident. Donc oui, j'avais extrêmement peur de ça et c'était quelque chose qui aurait pu m'empêcher de me lancer malgré l'enthousiasme de mes premiers lecteurs, mon agente, mon éditrice.
Mais ça n'a pas empêché de prendre la plume et tant
elles
mieux
sont
persuasives. Pour nous, les lecteurs. Olivia Ruiz, ce Café Monde qui est au cœur de votre nouveau roman qui paraît chez Lattès, Écoute la pluie tomber, eh bien, il est au cœur du village où vous avez grandi, Marseillette, 700 âmes. Dans l'Aude, voilà. Il existe toujours ce Café Monde, même si ce ne sont plus vos parents qui s'en occupent. Mais moi, je voudrais remonter le fil des souvenirs. On rêve à quoi, enfant, quand, comme vous, on grandit au milieu des vignes, des oliviers, des cyprès et qu'on voit passer les péniches sur le canal du Midi? On rêve à quoi?
Alors, on voit aussi un papa qui monte dans un tourbus rempli de musiciens et de chanteuses et de danseuses. Donc on voit son papa partir et on se dit mais qu'est-ce que c'est que cette prolongation de la vie de copain génial. On le voit sur scène aussi.
Ça c'était le week-end parce qu'il était en semaine donc au café.
Oui, au même, je vous avoue Isabelle que parfois il rentrait à 5h du matin de concert, il faisait la journée au café, il repartait à 17h faire un concert.
Il tournait dans toute la région.
Ah oui, et puis ça pouvait être plus que 2-3 jours par semaine parfois. Il y avait des moments où vraiment la vie de mes parents était dense. Ils avaient pour mission, ils s'étaient donné pour mission d'avoir une maison à nous laisser, de faire construire. Donc ils ont cumulé 2 jobs pendant 10 ans. D'où le fait que moi j'ai passé beaucoup, beaucoup de temps avec mes grands-parents. Donc voilà, je vois quand même mon père partir. Je le vois revenir avec tous ces musiciens qui mangent au café, tout le monde qui se marre. Je suis fascinée de le voir sur scène. Je suis dans les loges avec, je me rappelle très bien, la chanteuse de son premier orchestre, en tout cas du premier que j'ai connu, qui s'appelait Liliane et qui faisait un tableau avec une immense robe en lamé. Voilà, enfin, le contact avec quand même le spectacle.
Ouais.
Voilà, le divertissement pur, parce que c'est ça les orchestres de village, c'est du divertissement pur, on en prend plein les yeux, on danse, il y a quelque chose d'extrêmement joyeux qui fait du bien. Et c'est ça, je crois, que je voyais. J'ai envie de faire du bien.
Et était le répertoire de votre père, Olivia?
Tous les tubes de l'époque. Donc ça allait, je ne sais pas moi, ça allait de Freddie Mercury à Johnny Hallyday, en passant par les Who. C'était très varié.
Mais lorsque vous l'observiez depuis la coulisse, j'imagine que vous deviez piétiner d'impatience pour entrer sur scène dans la douche de lumière, venir rejoindre votre père et chanter à ses côtés, non? La première fois que vous avez chanté en duo avec lui, vous aviez quel âge?
Ah, alors j'ai pas chanté tout de suite en duo avec lui, sauf pour les repas de famille. Et à reculons, j'y allais parce que j'étais très gênée, j'étais très timide. C'est la première fois que je chante sur scène, c'est le professeur de musique du collège qui me fait intégrer la chorale parce qu'en cours, il trouve que je chante bien. Il n'est pas question de ça dans ma vie. Moi, à l'époque, je veux devenir metteur en scène ou comédienne. C'est ça, mon rêve d'enfant. Et il me met soliste. Et tout de suite, première année, je me mets à chanter une chanson de Maria Carré devant tout le monde, seule soliste de la chorale. Et là, un jeune garçon du collège vient me voir, me dit « On a un groupe avec des copains, tu veux pas chanter avec nous ?» Donc ça démarre comme ça, et avec mon père, c'est plus tard, c'est vers 18-19 ans que je me retrouve à chanter avec lui sur scène.
Et alors que dit le papa ? Il savait que vous possédiez ce don, ou puisque vous étiez quand même timide, pudique, vous n'osiez pas trop vous égosiller à la maison ?
Je chantais sans cesse à la maison, et mon papa passait son temps à me dire « De toute façon, tu peux pas faire un job comme ça,
c'est trop aventureux, c'est trop violent,
trop
c'est
aléatoire,
ouais.
Trop instable. » Et c'est vrai que j'avais pas vraiment besoin qu'ils me le disent, j'entendais bien les fins d'année complexes où il y avait pas le nombre de cachets, où c'était, ouais. C'était la tension à la maison était complexe. Ma mère avait pris un job pour que mon père soit musicien, qu'elle a jamais pu quitter, parce que justement il fallait que quelqu'un compense le côté aléatoire. Donc c'était plutôt, il y avait quelque chose plutôt de j'allais dire, d'interdit. Et à la fois, dès que je chantais, mon père me corrigeait. Et puis, quand je disais « je veux chanter avec toi ».
Ce qui signifie qu'il souhaitait que vous progressiez.
Voilà,
et puis,
il y avait cette ambiguïté.
En même temps, très tôt, vous avez goûté au bonheur de vous exprimer devant un micro, puisque juste pendant la pause, à l'instant, vous m'avez dit qu'à 6 ans seulement, vous aviez votre propre émission sur Radio Marseillaise.
Oui, une émission de dédicace. Vous rappelez quand on faisait ça à l'époque?
Exactement.
C'était génial.
Et en fait, une émission qui était diffusée dans la région, 15
tous
km
les samedis,
à la ronde.
Sur Radio Marseillaise, la radio de mon village qui existe toujours. Et mon père était à la radio, il avait une émission aussi. On est tous passionnés de musique quand même dans la famille.
Mais 6 ans pour mener à l'antenne une émission de dédicace.
Et ben oui,
la
j'aimerais
petite
bien,
Olivia avait déjà un sacré bagout, une sacrée gouaille.
Je sais pas, c'était facile derrière un micro, on me voyait pas. Donc du coup, c'était assez plaisant de pouvoir s'exprimer sans avoir le problème de la timidité qui entrait en jeu. Et d'ailleurs, mon premier groupe, ce jeune garçon qui vient me chercher, il me disait « mais bouge sur scène, mais bouge ». Moi, je mettais tout dans la voix, je ne bougeais pas d'un millimètre. Et puis, c'est rigolo de voir que 15 ans plus tard, je suis la chanteuse bondissante par excellence. C'est étrange, la vie.
Olivia Ruiz, même si on ne parlait pas espagnol à la maison, vous avez baigné dans une culture latine. Votre grand-père, Pedro, paraît-il, vous a enseigné l'art du tango et du paso doble.
Ça fabuleux danseur. Alors nous, on l'appelait Pierre, hein. Pedro, c'est aujourd'hui qu'on le rappelle Pedro, avec un petit clin d'œil dans ce terme, parce qu'il s'est un peu rapproché de ses origines à partir du moment où il est tombé malade de la maladie d'Alzheimer, où il est revenu, il s'est remis à chanter plein de chansons en espagnol. Le seul rapport qu'il avait avec ses origines était les chansons de Julio Iglesias. Pour la plupart, il chantait merveilleusement bien, et à tous les petits bals de village, les gens disaient « Allez, va nous chanter une chanson, Pierre, dépêche-toi, on t'attend. » Et la danse. C'était un danseur vraiment très très doué, un danseur naturel, comme on dit.
Pas que vous aimiez accompagner au bal justement du village ce grand-père qui dansait, qui chantait.
Mais on se l'arrachait, Isabelle, pour danser avec lui. Même au bout de 70 ans de vie commune, ma grand-mère me disait «
Elle était jalouse !»
Et oui, il est allé faire danser cette jeune de 60 ans là. Non mais franchement, au lieu de se faire danser, toi, ils avaient quelque chose de très folklorique et d'adorable. Donc oui, dès que je pouvais, je passais un petit moment au bal musette ou au bal du village pour qu'il me fasse danser. Il m'a appris la java, le passo, le tango. Enfin, il m'a donné des notions de toutes ces danses-là. Ouais. Et maintenant, je les pratique avec bonheur. Je le fais revivre à chaque fois que quelqu'un me fait redanser une de ces danses-là.
Bon, je continue de dérouler le fil des souvenirs, Olivia. Alors, l'adolescence arrive. L'adolescence avec ses tourments, ses rébellions, ses excès, bien sûr, puisqu'on se cherche. Il paraît qu'à 15 ans seulement, vous allez nous dire si c'est vrai, vous avez quitté le giron familial pour aller vivre à Narbonne, passer un bac théâtre et vous investir donc dans la musique. Ce furent vraiment des années folles et joyeuses, ces années-là.
Oh oui. Et ce qui est fou, c'est que la bande de copains que je rencontre à ce moment-là, notamment le musicien Franck Marty, avec qui je démarre un duo qui s'appelle Les Amants, Bah, ce Franck Marty, Isabelle, il est toujours à ma gauche aujourd'hui sur scène chaque soir.
C'est vrai. Donc vous êtes quelqu'un de fidèle.
Absolument. Et ouais, on va fêter nos 25 ans côte à côte. C'est fou. On a commencé, j'avais pas 17 ans. Et il est toujours avec moi et il m'est toujours aussi précieux.
Et à cette époque-là, vous faisiez aussi des concerts avec votre père en duo sur des chansons latines.
C'est ça. Là, pour le coup, on avait un répertoire très français avec du Piaf, avec des chansons vraiment de patrimoine. Et on avait du Porqué Tebas, du Comandante Che Guevara, et tous les tubes finalement de mon enfance.
Olivia Ruiz, vous dites que votre voix, quand vous chantez en espagnol, prend naturellement des accents rauques et brisés et se charge de quelque chose de presque tragique. C'est pas étranger à l'exil familial qui est constitutif justement de votre propre chemin et de vos choix, ça ?
Je saurais jamais, mais c'est vrai que la première
fois...
C'est un
constat en tout cas, c'est vrai.
Ça a été assez flagrant la première fois que c'est arrivé, mais même là, en ce moment, je joue un spectacle bouche cousue qui va finir en mois de novembre, où... même ceux qui me connaissent auraient du mal à reconnaître ma voix dans les chants espagnols et particulièrement dans les chants guerriers, révolutionnaires, où elle prend quelque chose de beaucoup plus... elle prend une envergure finalement, tout simplement. Et j'ai attribué ça, effectivement, ce cri du corps que ça a été la première fois où je chante en espagnol alors que je ne connais même pas cette langue. J'ai attribué ça à un appel des origines. Mais ça, c'est la petite histoire que je me raconte. Voilà, c'est peut-être absolument pas réel. Vous savez comment on est, on se raconte des histoires pour tenir, pour trouver des buts.
Certes, mais ça semble si plausible, si cohérent. Alors, Olivia Ruiz, on a le sentiment que l'aventure de la Star Academy, c'est un épisode anecdotique dans votre histoire, même si, médiatiquement, vous êtes née sur ce plateau. D'abord, ce sont vos parents qui vous ont inscrite, et pas vous. TF1 proposait des cours de danse et de chant gratuits. Il suffisait d'envoyer une vidéo. Alors, vos parents se sont mis à rêver et un beau jour, TF1 vous a convoqué.
Alors, c'est pas...
C'est un raccourci,
tout
là.
Tout à fait comme ça. Alors, ma maman a trouvé le papier dans un fast-food, figurez-vous. Ils avaient mis ça n'importe où. Et elle me dit, mais regarde, toi, ta troisième année de fac ne commence qu'en janvier. Ça te laisse pile le temps
de
faire ça. De communication.
Oui.
Voilà, mais management. Ce qui m'a servi un petit peu, ce qui n'était pas totalement perdu. Donc elle me dit, tu as 3 mois où tu n'as rien à faire, inscris-toi, ça te fait 3 mois de cours de chant et de danse gratuit, c'est génial.
Mais incroyable, la production présentait ainsi ce qui allait être une télé-réalité.
Et oui, parce que TF1 écrivait partout, on lance quelque chose, attention, nous on ne fait pas de la télé-poubelle comme M6. C'était ça le message de TF1. Nous, on ouvre une école de chant et de danse. Sauf qu'au bout de 3 semaines, le programme ne fonctionnait pas du tout. Donc, ils ont transformé, ils nous ont mis des caméras dans l'intimité.
Ah, c'est en cours de tournage.
Absolument, pour sauver l'émission qui allait être arrêtée. On nous a même dit un jour, l'émission va sûrement s'arrêter parce que ça ne fonctionne pas.
Incroyable.
Et puis, en rajoutant des caméras dans des endroits qui n'étaient plus vraiment liés à l'apprentissage, l'émission s'est mise à décoller.
Alors, quelles ont été les réactions des candidats, puisque ce n'était pas du tout en fait, le programme proposé au départ?
Ah, mais on n'avait pas... Alors non, contractuellement, c'était la première, donc le contrat, c'était... Voilà, on en a signé un à 5 minutes du premier prime, on en a re-signé un autre au bout de quelques jours, parce que tout ça à la rage. Donc même eux n'étaient pas prêts, finalement, au moment où tout se passe. Donc non... Non, on savait à peine ce qu'il y avait dans ce contrat. On l'avait lu de travers juste avant d'entrer parce que c'était la condition pour entrer. Et on nous l'a transmis à quelques minutes du premier prime. Non, non, c'était vraiment tout à l'arrache.
J'imagine qu'en fait, aucune amitié réelle n'était possible dans un tel contexte.
Oh, aussi.
Si, pourtant...
Ah oui.
Malgré les caméras, malgré les millions de paires d'yeux fixés sur vous en permanence, quotidiennement...
On ne le sait pas, ça. On ne s'en rend pas compte. On a des cadreurs, mais au bout d'un moment, ils sont...
On les oublie.
On les oublie, puis même, ça fait partie du truc. Et on n'avait pas conscience de ce qui allait être diffusé. Donc, on vivait notre truc avec nos objectifs de sport, de danse, d'assurer le prime, mais on n'était pas du tout en conscience... qu'il y avait une audience derrière tout ça.
En quoi les professeurs de la Starac vous ont-ils fait progresser, réellement? Parce qu'il y avait de bons profs.
Bien sûr, Armande, Moi, j'avais jamais pris de cours de chant. Donc, Armand Altaï m'a fait passer des caps incroyables sur des positions de visage, sur la respiration. C'est, je pourrais même pas faire la somme du nombre de choses qu'elle m'a apprises et dont je me sers encore aujourd'hui, 21 ans plus tard.
Oui.
C'est une femme extraordinaire, dans une bienveillance, dans une douceur, et en plus qui a une histoire dingue. Il faudrait écrire un jour tout ce qu'elle a fait à 20 ans, les 400 coups avec Patrick Devers et Daniel Auteuil.
Armand
Altaï. On la connaît pas finalement, pas si bien que ça. Donc oui, Armand et puis Patrice McTavish, qui est aujourd'hui encore un de mes proches, un des candidats.
Alors, Olivia Ruiz, arrivé en demi-finale, parce que vous êtes allé jusqu'en demi-finale de la Starac, mais vous avez fait une déclaration qui, paraît-il, a désespéré vos parents.
Oui. C'est une vie
on
de
désespoir. On reconnaît là le tempérament rebelle. Qu'avez-vous déclaré ?
Que je ne voulais pas qu'on vote pour moi, parce qu'on commençait à savoir que la gagnante avait un album qui était déjà prêt.
Oui.
Donc, qu'elle allait avoir, ou le gagnant, peu de marge de manœuvre sur les choix de chansons. Donc moi, c'est vrai que là, j'ai pris peur. Parce que les gens qui étaient les gros vendeurs de disques de l'époque et qui allaient être les auteurs-compositeurs étaient des gens que je pouvais aimer écouter, mais dont
mais
je ne me sentais pas de défendre
ne ressemblait
la musique.
Pas au vôtre.
Voilà.
Alors, vous avez fait cette déclaration de façon très officielle, devant des micros, devant des caméras.
Oui,
mais
savez.
Comment a réagi la production de la Star Academy ?
Ils n'ont rien dit. Ils m'ont rien dit. C'est plus ma maman qui m'a dit, franchement, 1 million d'euros, mais tu plaisantes ou quoi ? Tu veux pas gagner, mais
oui,
si tu veux gagner, je vais te dire que tu veux gagner.
C'est pas anecdotique. 1 million d'euros à la clé.
Mais bien sûr, imaginez.
Et la jeune Olivia, du haut de ses 21 ans,
une famille modeste comme la mienne, imaginez-vous.
Ne votez pas pour moi.
Ah mais je pense que là je leur ai fait faire encore quelques cheveux blancs parce que c'est vrai que tout d'un coup le problème majeur pour eux qui était de boucler les fins de mois quand on était artiste ne se posait plus. Et ma mère n'arrêtait pas de me dire mais punaise mais prends-le ce 1 million d'euros, fais l'album qui est prévu et puis tu feras un deuxième album où tu feras ce que tu veux, tu t'en foutras, t'auras 1 million d'euros pour voir venir.
Elle vous en a voulu pendant un certain temps votre maman?
Oh non, elle m'en veut jamais, c'est une super maman. J'ai de super parents et c'est probablement ce qui fait que j'ai une bonne assise et que je reste sincère.
Donc, en sortant de la Starac, puisque vous avez demandé à ce qu'on ne vote pas pour vous et les téléspectateurs vous ont écouté alors que vous pouviez décrocher la finale.
Peut-être qu'ils n'auraient pas voté pour moi de toute façon, ça c'est pareil, on ne saura jamais.
Mais vous pouviez décrocher la finale. Eh bien, en sortant de la Starac, vous qui aviez grandi en écoutant les Têtes de Rita Mitsouko,
Gilbert Bécaud
voilà,
et Nougaro,
et Whisper Circus, ou encore Juliette, bah vous avez cherché des auteurs sur ces terres-là, justement. Mais on se méfiait de vous parce que vous sortiez de la Starac. C'était un problème sans fin, en fait.
Oui, c'est vrai que j'étais très étonnée parce qu'on ne se rendait pas compte à l'intérieur qu'il y avait toute une population de gens qui critiquaient l'émission justement parce qu'elle était avant tout une télé-réalité. Et tous les artistes avec qui j'avais envie de travailler s'étaient positionnés contre avec beaucoup de fermeté. Donc la croisade, j'allais dire, a commencé.
La croisade, voilà.
Voilà, et
là... Avant de vous donner un texte, d'ailleurs, J'aime pas l'amour, qui est une chanson qui a été un tube, Juliette vous a fait tester par certains de ses amis, c'est ça ?
Ouais, ça n'a pas été simple. C'était dur parce que j'étais prête à manger ma chance d'avoir une possibilité de rencontrer des gens. Et souvent, c'était la première rencontre était assez violente, ouais. Juliette, je me rappelle, je vais la voir sur un concert à 7. Je prends ma petite voiture pour aller la voir et elle ne comprend pas quoi, ce que je fais là. Donc elle a une forme de froideur au début, mais tout en me disant, et puis je m'en vais, elle me dit, et je lui dis, vous savez Juliette, moi-même, des fonds de tiroir de Juliette, ce sera toujours mieux que plein d'autres choses. Donc même un fond de tiroir, ça m'intéresse. Et ensuite, elle m'a invitée à son anniversaire, elle m'a laissée avec tous ses copains qui m'ont posé des milliards de questions, comme pour vérifier que... Et en même temps, ça me semblait tellement tomber sous le sens. Pourquoi je serais allée chercher Juliette alors que
bien
je pouvais
sûr.
Avoir... quel intérêt j'aurais pu avoir à aller chercher. Enfin, voilà.
Donc vous avez passé l'examen haut la main.
Oui, et j'ai eu de très belles chansons.
De Juliette.
De Juliette et de tous les gens qui ont écrit sur ce premier disque et qui m'ont fait des cadeaux magnifiques.
Mais Olivia Ruiz, maintenant qu'on connaît votre talent d'écrivaine. Pourquoi n'avez-vous pas écrit directement vos chansons? Pourquoi avez-vous attendu l'album de la femme Chocolat, album qui a été disque de diamant d'ailleurs, avec 1 200 000 exemplaires vendus, pour prendre la plume?
Parce qu'il fallait que je trouve dans le regard de quelqu'un la confiance que je ne trouvais pas à l'intérieur de ma propre petite carcasse. Et Mathias Malzieux est arrivé dans ma vie. Et dans son regard, j'ai vu une fille géniale que je n'avais jamais rencontrée jusque-là et j'ai eu envie de croire qu'elle existait voilà. Vraiment. Voilà.
Voilà. Et cette fille géniale, elle est apparue au grand public comme une espèce de rebelle cérébrale, à la fois hors du système et pourtant très très populaire. Alors, je voudrais savoir, vous avez très vite été votre propre manager, vous avez toujours suivi vos idées, que ce soit pour la scène, le théâtre, le cinéma, parlons pas de l'écriture parce que ça va de soi, c'est intime, mais est-ce que très vite c'est vous qui avez décidé de tout dans votre histoire artistique?
Non, j'ai beaucoup appris des gens qui m'entouraient au début. Alors, décider de tout, oui, évidemment. Par exemple, certaines chansons, je me rappelle du patron de ma maison de disques à l'époque, à qui j'amène des chansons et qui m'en désingue certaines, celles auxquelles je crois. C'est un petit jeu comme des enfants, quoi. Il me dit, celle-là, elle ne sera pas sur ton album. Et moi, je lui réponds, celle-là, elle sera sur mon album. Non, celle-là, elle ne sera pas sur ton album. Et ça dure. Et finalement, ben voilà, quand on a une conviction profonde, ce qui est rarement mon cas, je pense qu'il faut l'écouter. Parce que, par exemple, je pense à cette chanson « Vitrier » qu'il détestait, où c'est l'histoire d'un petit vitrier qui hurle dans les rues. Je l'ai trouvée très, très touchante. Il m'envoie bouler avec cette chanson en me disant « Jamais tu la sortiras ». Je lui dis « Si, je vais la mettre ». Et concert à Paris, je dédicace cette chanson.
On devine à qui ?
À cet homme, avec un grand sourire, parce que c'était vraiment pour blaguer. Ouais. Je ne lui en voulais pas du tout, on a le droit d'avoir des goûts différents. Et finalement, il ne m'a pas mis un couteau sous la gorge pour que je l'enlève de l'album. Il a essayé, après tout, il a tenté. Et là, tout le public chante la chanson. Et voilà. Et donc, l'album suivant, j'ai pas eu besoin de me justifier.
Voilà,
autant.
Exactement.
Pareil, savez... La femme chocolat, je traîne des pieds. Tout le monde me disait, mais enfin, Olivia, je traîne des pieds. Tu veux qu'on aille voir les radios avec ça? Une chanson, il n'y a qu'une beatbox et une boîte à musique. Ça n'existe pas en radio. Personne ne voudra de ça. La femme chocolat, mais il n'y a pas de refrain sur ta chanson. Qu'est-ce que tu veux que les radios passent une chanson sans refrain?
Et c'est devenu mieux qu'un tube. Alors, on continue d'agiter les souvenirs. Olivia Ruiz. De la même façon que ce sont donc vos parents, enfin votre maman qui a envoyé une vidéo de vous à la Starac pour vous inscrire, eh bien c'est votre agente et amie qui a envoyé à 14 éditeurs, paraît-il, votre premier manuscrit en espérant le voir publié. Spontanément, vous n'auriez pas fait la démarche?
Ah mais je lui ai surtout demandé de ne pas l'envoyer le jour où elle l'a envoyé.
Elle l'a envoyé en secret?
Oui, le vendredi elle m'appelle, elle me dit faut envoyer, il te manque plus qu'un chapitre, ça tu peux le faire une fois que tu seras assignée. Et je lui dis non, laisse-moi jusqu'à lundi, je suis pas sûre quoi. Je suis contente de l'avoir fait mais je suis pas sûre que j'ai envie de le publier maintenant.
Incroyable.
Et d'affronter le regard des gens et des médias notamment.
Mais en même temps,
elle
n'écrit
pas...
Et
elle l'a fait dans Mondo, voilà.
Et bravo à elle, merci pour les lecteurs. Mais en même temps, Olivia Ruiz, on n'écrit pas que pour soi, on écrit aussi pour être lu.
Oui, mais je ne voyais pas d'urgence. Après, peut-être que je me disais, je voudrais attendre un moment, je me sens super bien et super forte pour le sortir. Comme ça, si ça se passe mal, je suis prête à encaisser. Là, c'était un moment un peu de fragilité. Donc, franchement, si les réponses avaient été dures, je sais pas comment j'aurais accusé le coup de tout ça.
Olivia Ruiz, la flamboyance de l'Espagne est attachée à votre nom, à votre tempérament, à votre répertoire. Mais vous ne vivez pas en Espagne, vos terres sont montmartroises, depuis longtemps d'ailleurs. Pourquoi avez-vous choisi Montmartre? C'est le Paris dont vous rêviez depuis l'Occitanie?
Mais oui. Complètement. Bah oui, les débuts de Nougaro, Lapin Agile, Fréhel, Damia, Piaf, Berthe Silva. C'est le hasard qui m'a amené là. Justement, une de mes collègues de Starac qui m'a dit « Tiens, il y a un appart, je suis sûre qu'il est pour toi. » Et je suis arrivée là, j'ai senti que que j'avais trouvé une place où j'allais être moi, parce que c'était un village dans la ville, Montmartre. On a l'impression que c'est une image d'Épinal, mais non, tout le monde se connaît, les liens entre les gens sont très forts. Moi, quand je vais chercher mon fils à l'école et qu'on se descend toute la rue,
vous parlez à tout le monde,
tous les deux mètres,
comme
pour
si
dire
on était à Marseillette.
Mais vraiment, tout le monde, et toi, et tes gosses et machin, on est. Et d'ailleurs, je me dis que même si là j'ai de grandes envies de Sud depuis quelque temps, je me dis à l'adolescence, ça va être génial pour mon fils parce que moi, j'aurais aucun problème à le laisser sortir le soir dans Montmartre. Je sais qu'il sera surveillé par le quartier entier. Donc, je pourrais passer mes journées détendues, mes soirées détendues.
J'allais vous demander si Montmartre, justement, avait dû entrer en résistance pour demeurer un village, malgré ces 10 millions de touristes chaque année. 10 millions de touristes, c'est pas anodin.
Ben oui, c'est vrai que c'est énorme. Moi, j'aime beaucoup ça parce que je suis dans un coin un petit peu haut sur la butte où il y a moins de passages, mais quand même, il y en a. Et j'adore sortir de chez moi, entendre parler italien, espagnol, anglais. Il y a quelque chose de... un état d'esprit un peu... Un esprit vacances, quoi.
Mais vous venez de nous confier que quand même, le Sud vous appelle.
Oui.
Parce que ça fait une vingtaine d'années que vous vivez à Montmartre. Mmh. Et parfois la garrigue, les cyprès, les oliviers...
Quand on a grandi en pleine nature... Et qu'on élève un enfant, on se sent vraiment injuste de lui imposer de vivre dans Paris, alors qu'il pourrait vivre dans le Sud. Ce n'est que mon avis, évidemment, absolument pas objectif. Mais c'est vrai que moi qui ai grandi avec pas de nécessité d'être surveillée, par exemple, on nous mettait sur le stade et puis on s'amusait, et puis on revenait nous chercher 2 heures après. Nous, on sort de chez nous, la première chose que je dis, c'est attention. Parce qu'on sort de notre appartement, on est directement sur la route. Et voilà, c'est vrai que j'ai tellement apprécié cette légèreté-là.
C'est ça,
ce côté
cette
un peu,
insouciance.
Voilà, Tom Sawyer, que peut avoir un enfant dans un tout petit village.
Mais Nino, votre fils, qui a 6 ans, il serait prêt à aller vivre en Occitanie?
Ah oui, pourtant on a confiné dans une toute petite station balnéaire qui s'appelle Narbonne-Plage, où j'ai un petit appartement. Et juste comme ça, je lui disais, ça te dirait toi qu'on reste et qu'on remonte pas? Je lui dis, ça t'embêterait pas pour tes copains? Et il me dit, ils viendront me voir pendant les vacances. il avait 4 ans et demi, il avait déjà trouvé une solution qui lui permettait, et il était tout à fait OK. Mais il a un papa, cet enfant, nous ne sommes pas seuls à décider.
Parfait. Bon, Nino, il voit sa maman sur scène, chanter, danser, jouer. Mm-hmm. Et puis Nino, il voit sa maman écrire. Quel regard alors pose-t-il sur l'étonnant métier de sa mère?
Alors, c'est un grand lecteur.
Ah, donc, comme vous l'étiez enfant.
Oui, tout à fait. Moi, je n'ai pas lu à 3 ans et demi. Lui, il est assez bluffant dans son indépendance et la façon dont il s'engage dans des choses tout seul depuis petit. Et il y va, il fonce et il réussit. Donc, il aime bien l'idée que j'écrive parce qu'il est attaché au livre. Il a très bien compris que quand j'écrivais, je restais à la maison. Et que j'étais là à 16h, à la sortie 16h30,
donc
à la sortie de l'école, et que je pouvais même l'emmener déjeuner midi. Donc définitivement, il valide beaucoup plus mon métier d'écrivain que mon métier de chanteuse. Et à la fois, si vous pouviez voir le lien qu'il y a entre mes musiciens, mes techniciens et lui, puisqu'il a grandi en tournée, puisque pendant 2 ans de sa vie, il a vécu dans le tourbus avec moi, dans notre petite chambre de 3 mètres carrés, que voilà, il a un rapport avec...
Nino est un enfant de la balle.
Et oui, alors il veut pas entendre parler de musique en ce qui le concerne, il est très contre, il aime beaucoup se construire contre, donc son père est fan de l'OM, il est fan du PSG, sa maman fait de la musique, il ne veut pas faire de musique, sa maman aime danser, il ne veut pas danser.
Tempérament,
voilà,
c'est dans l'ADN familial.
Je sens que ça va être funky ça, dans quelques années pour moi. Et en même temps, il adore venir sur les concerts. Il est comme un poisson dans l'eau. Il part avec le régisseur changer les petites lampes des pupitreurs. Il sait le métier de chacun. Donc, ça l'intéresse.
Comme
en même
vous
temps...
avez vécu tout cela, enfant, lorsque votre père partait en tournée.
Mais oui, c'est vrai, ouais.
Donc c'est le voilà. C'est en fait c'est la boucle se reproduit.
C'est fou, je me l'étais jamais formulé comme ça. Il faut que j'arrive à votre micro, Isabelle, pour me dire mais oui, en fait, il est à peu près la même enfance que moi.
Voilà.
Sans le café. Quoi.
Alors dans votre histoire si dense, Olivia Ruiz, danse avec un E, avec un A. Il y a un chapitre qu'on n'a pas encore évoqué, c'est le cinéma. Vous êtes entrée par la grande porte dans ce milieu, tenant le haut de l'affiche entre François Berléand et Gérard Jugnot pour le film Un jour mon père viendra. Votre justesse de ton, elle a vraiment conquis tout le monde. Mais je suis surprise parce qu'il n'y a pas eu de deuxième film. Alors, vous êtes trop libre, trop indépendante, trop autonome pour ce genre d'aventure ?
Alors non, il y a eu un deuxième film que j'ai adoré faire, qui était un téléfilm qui s'appelait État d'urgence.
Voilà, moi je parlais
ciné.
Voilà, ciné.
D'accord,
ciné.
Grand écran, voilà. Effectivement.
Parce que État d'urgence a très bien fonctionné, ça a été vraiment accueilli formidablement, mais c'est la télévision. Mais au cinéma, pourquoi une seule expérience ?
Autant au cinéma qu'à la télé, malheureusement, pas de proposition après ces deux projets qui pourtant effectivement avaient été plutôt salués par la critique. Pas de proposition. Alors parfois je me dis, est-ce que c'est moi qui suis pas bonne en casting, parce qu'il peut m'arriver de faire des essais, mais c'est très rare. Et en général, je ne suis pas prise. Ou est-ce que c'est que les gens me voient tout le temps occupée, qui se disent elle a pas envie de ça, alors que
et
je meurs d'envie de ça. J'ai juste et mon alors, premier bon, amour, voilà. C'est le théâtre. Mon premier amour, c'est l'acting, c'est le jeu, et c'est la chose que j'aurais fait le moins au cours de ma
alors,
vie.
Alors vous voyez, Europe 1, ça diffuse loin, loin.
Et la discipline donc, que j'ai appris à l'école et en fac, et c'est l'art
oui,
dramatique.
Vous avez passé un bac théâtre.
Voilà.
Olivia
donc
adore jouer.
Je le mets au service de mes autres disciplines, ça fonctionne aussi.
Alors, en tout cas, les projets, ils ne manquent pas, hein, Olivia Ruiz.
Non.
Votre premier roman, La commode de tiroir de couleur, va devenir en France une série pour la télé. Vous travaillez également pour son adaptation au théâtre. Vous venez de terminer la musique d'un film d'animation pour enfants.
Très mignon, pour les 2 à 5 ans. Ça va être très joli.
Qui a pour titre ?
Alors, on n'a pas encore le titre définitif, mais c'est vraisemblablement pour Arte. Et
d'accord.
Ça met en scène des petits personnages qui sont des agoutis.
Bon, c'est mystérieux, on en saura davantage bientôt. Vous préparez bien sûr votre 6e album sur lequel vous chanterez en espagnol et en français. Mm-hmm. Et puis le bonheur d'écrire, il n'est pas prêt de vous lâcher. Donc on attend le 3e tome de cette saga familiale, haute en couleurs.
D'abord un disque, hein, avant alors, de reprendre le,
justement,
les chemins de la solitude.
L'album.
Oui. Alors non, déjà j'ai la tournée Bouche Cousue, mon spectacle, le spectacle qui n'est pas terminé. Un très joli spectacle où on se balade entre les chants espagnols qui ont été le lien entre les Espagnols de France et leur pays d'origine, et de grandes chansons de García Lorca ou des films espagnols qui ont marqué le monde entier.
Donc alors vous sillonnez la France avec ce spectacle jusqu'en novembre,
voilà,
Bouche Cousue.
Du 23 septembre au 25 novembre, nous sommes sur les routes. Ensuite, enregistrement de l'album sur la fin de l'hiver. Et puis, probablement, une sortie en septembre.
D'accord. Et la série télé, donc l'adaptation pour la télé de La commode au tiroir de couleur. Mm-hmm. Alors ça, c'est prévu pour quand ?
Alors ça, je ne sais pas. Figurez-vous que les scénaristes commencent à écrire là depuis un mois et demi. Je les ai emmenés cet été visiter tous les lieux qui existent vraiment de La commode au tiroir de couleur pour qu'ils puissent prendre les ambiances, voir un peu le profil des gens. Donc là, ils sont en écriture et on devrait se revoir ce mois-ci pour qu'ils me présentent leurs premiers travaux.
Alors, c'est une boîte de prod qui est venue vous solliciter ou bien c'est une chaîne de télé ?
C'est une boîte de prod qui s'appelle Estrella Productions, ça ne s'invente pas, avec une jeune fille incroyable qui s'appelle Stéphanie Carrera. Elle porte le nom de jeune fille de ma mère. Ça aussi, ce sont de drôles de signes.
N'est-ce pas ?
Voilà, et son mari, qui lui a une grande connaissance de mes terres audoises aussi, où se passent quelques scènes. Donc voilà, c'est encore une fois un travail en famille, même si moi je ne suis ça que de loin. Enfin, j'ai un droit de regard sur tout le contenu écrit, mais quand ils auront trouvé le réalisateur et quand on lui aura transmis les scénarios, tout ça ne m'appartiendra plus. Je serai devenue simple spectatrice. Et c'est assez excitant quand
n'est-ce
même.
N'est-ce pas Olivia Ruiz, sur votre compte Instagram, vous avez cité cette phrase de Flaubert. Je suis d'une sensibilité absurde. Ce qui érafle les autres me déchire. Mais cette hypersensibilité, elle a fait de vous quelqu'un qui crée, parce que vous regardez autrement. Vous êtes vraiment toujours aussi vulnérable. Vous ne vous êtes pas caparaçonné depuis que vous faites ce métier.
Eh ben non, hein. Bizarrement.
D'une manière aussi populaire.
Bizarrement, rien ne m'assied, j'allais dire. Je continue à marcher sur un fil à chaque fois que je ressors un projet, à chaque fois que je... Voilà. Non, je crois que je suis destinée à être une équilibriste. Alors peut-être que ça ne simplifie pas les choses, mais effectivement, peut-être que ça nourrit la création aussi.
Ce nouveau roman, qui paraît chez Lattès, a pour titre « Écoute la pluie tomber », en occitan. Ça se dit comment, Olivia ?
Escuto Camplao.
Escuto Camplao.
Mm-hmm.
C'est joli. Bon, et ben voilà, on se quitte sur cette petite musique chantante du Sud, celle de votre berceau, Olivia Ruiz. Merci infiniment.
Merci Isabelle, c'est un très bon moment.
Et puis, on va en fait aller voilà, vous voir, vous écouter dans le spectacle Bouche Cousue, qui va vous faire sillonner la France jusqu'au 25 novembre.
Super.
À bientôt.
À bientôt.
Il n'y a pas qu'une vie dans la vie sur Europe 1. 13h, 14h, Isabelle Morizet.